Jésus-Christ. Donc, le premier qui a écrit à propos de Jésus-Christ, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui a écrit, et la première et la deuxième aux Corinthiens, à peu près 10 à 12 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Et quand il a fondé une église à Corinthe, comme à Éphèse, d'autres passent, il dit ceci: « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'Esprit-Saint et de sa puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Alors, Jésus-Christ semble avoir touché le cœur de Paul. On va y revenir. C'est le dernier témoin oculaire, avec Jean, l'apôtre, dans les visions, dans le corps apostolique. Mais ce qu'il y a, c'est le premier à écrire. Parce que Marc, Matthieu et tout ça ont écrit un petit peu après lui, vers les années 45-50. Et Jean, vers les années 70-70. Alors, qu'est-ce que Paul a encore dit de Jésus ? En 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1. Il a dit quelque chose qu'il n'a pas inventé et qu'il a reçu. Je vous l'expliquerai après où il l'a reçu. La première aux Corinthiens, chapitre 15, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, donc la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. » Donc, ces frères-là ont reçu l'évangile, pas forcément de Paul. On va voir pourquoi. « Par lequel vous êtes sauvés, et si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, l'Ancien Testament. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il a apparu aux plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. » Mort parce qu'il les a tués, hein. Pas mort, de façon naturelle, hein. Alors, il a reçu un témoignage de ces personnes-là, de 500 personnes et des 12. Paul a eu la vision de Christ, mais il a eu le témoignage. À quel moment il a eu le témoignage ? Allons, parce que c'est là que commencent les écrits concernant Jésus. C'est comme ça que c'est pour ça que je prends cette voie-là. Hein, je reviendrai sur d'autres choses après. Dans Galates chapitre 1, Galates ça veut dire des anciens Gaulois, hein, des gens de la Gaule qui avaient fui et qui étaient réfugiés 2-3 siècles avant en Asie Mineure à cause des invasions. Galates chapitre 1, verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, donc de lui-même. Je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, ce qu'il dit, c'est Jésus qui lui a dit. Vous avez su, en effet, Galates, chapitre 1, verset 13, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, donc chapitre 1, verset 15, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, donc un cadeau immérité, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, c'est-à-dire ni mes parents, ni mes amis, ni les juifs de la synagogue, du temple, personne. Je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Vous voyez bien, je partis pour l'Arabie, donc il va évangéliser. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem. Donc pendant 3 ans, il évangélise, il parle de Jésus-Christ. Et clairement, il en parle comme il en a toujours parlé. Il n'a pas commencé à bredouiller au début pour dire des bêtises. Il avait rencontré le Christ. Alors, Je demeurai 15 ans. Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Vous imaginez ? Et il n'a pas osé montrer son bout du nez aux autres. Il était voir Pierre et Jacques, parce que c'était tellement un gars. Les autres avaient peur. Il était redoutable.
Il avait tué Étienne.
Oui.
À ce moment-là, il s'appelait Saul.
Ben oui. Alors, ben la publicité était mal faite sur lui, hein, c'est sûr. Alors, je ne vis aucun des autres apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie, donc au milieu de la Turquie actuelle. J'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Jésus-Christ. Donc, toutes les églises de Judée, de la région de Jérusalem et tous les alentours, inconnues. Ben oui, puisqu'il ne s'est pas montré. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles rendaient gloire à Dieu à mon sujet. Vous voyez la situation de cet homme-là. Chapitre 2. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Pourquoi ? Parce qu'il a été à Tarse, dans sa ville natale, en Turquie, pas loin d'Antalya et tout ça, au bord de la mer. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il restait là. C'est Barnabas qui était un juif converti, qui habitait l'île de Crète, qui a été à Tarse, le chercher et l'amener à l'église d'Antioche. Vous imaginez à quel point la difficulté d'intégrer un homme comme ça, qui est converti et qui était un ennemi avant. Les hommes, les gens, les femmes, tout le monde avait peur. Alors, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Tite est un grec, hein, d'origine. Ce fut après une révélation que j'y montai, donc parce que Dieu lui demandait. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, donc tous les apôtres, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Donc ça veut dire, j'ai été approuvé, et si j'avais été désapprouvé, je devais arrêter. J'ai été approuvé par les apôtres, je disais le même message qu'eux. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Donc il y a clairement chez Paul, une grande réserve au début de son ministère, elle a duré longtemps. C'est Barnabas qui a un peu poussé et encouragé, et puis après il a été bien accueilli. Vous voyez la difficulté parfois de se faire accepter dans un milieu, même chrétien. Ce n'est pas si simple que ça. Mais Paul a été patient, il a été humble, et je pense que c'est son orgueil qui a été limé. C'est un bonhomme avec un caractère, à mon avis, exceptionnel, un peu spécial. Et Dieu a voulu qu'il passe par ces moments-là. Au chapitre 3, verset 8. Oui. L'Écriture prévoyant que Dieu justifierait, donc pardonnerait les péchés, justifierait les païens par la foi en Jésus-Christ, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénis en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Voilà comment il se repose. Paul se repose sur toutes les prophéties qui ont été faites à Abraham en 21 siècles avant Jésus, et il considère que toutes les promesses, qu'il y aura une postérité aussi nombreuse que les grains de sable de la mer, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, eh bien, c'est pour ça qu'il évangélise et qu'il a été appelé à servir Dieu. Et donc, c'était dans le plan de Dieu, ce n'est pas dans son plan à lui. Ça, c'est très important. Au chapitre 4... Oui, hein, au chapitre 4, verset 3, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage de principes élémentaires du monde. Enfants, c'est-à-dire, dans la religion juive, dans une religion avec des règlements, tu fais ça... tu seras récompensé. Tu ne fais pas ça, tu seras puni. Et puis quand tu meurs, tu ne sais pas encore si tu es sauvé. C'est ça un enfant. Il a peur. Et il ne connaît pas son chemin. Nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde, c'est-à-dire des règles religieuses. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, donc une juive, sous la loi de Moïse, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie en nous, Papa, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave de la loi, des commandements, mais tu es fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Paul résume le fait que la loi s'est finie et qu'on devient enfant de Dieu parce que Dieu a décidé de faire de nous des enfants. Le temps de la loi est fini. Et par qui ? Par Jésus, né d'une femme sous la loi. Alors, la femme, c'est Gunée. Donc, c'est une femme qui a eu un mari et des enfants. Gunée, ça veut dire ça. Elle était parthénos, elle était vierge au moment où elle a porté Jésus. Elle a enfanté Jésus. Et comme il est mis dans Matthieu, au chapitre 1, verset 30, après, elle l'a connu, Joseph. Alors, pourquoi est-ce que le Fils de Dieu, né dans une famille humble, dans un tout petit village, quasiment insignifiant, hein, hier j'en ai parlé, on a retrouvé des traces qu'il existait à cette époque-là, hein. Et donc, pourquoi un petit village insignifiant dans une famille un peu insignifiante, hein? C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu, comme ça. Pourquoi? Parce que c'est dans la faiblesse que Dieu va parler. C'est dans la faiblesse de Jésus, de Nazareth, dans la petitesse, mais dans la grandeur de Jésus. Alors, il a clairement été dit par Paul que c'était la pauvreté de Jésus, Christ, qui nous a enrichis. On ne va pas revenir à ce verset-là après. Regardons Marc, chapitre 6, verset 3. L'évangile de Marc. Marc, c'est l'évangile, bien sûr, qui a été écrit sous la direction de l'apôtre Pierre, par un homme, Marc, qui n'a pas été avec Jésus. Il a connu tous les apôtres, tous ceux qui ont, les 500 personnes et les apôtres, qui ont vu Jésus ressuscité, mais Marc est arrivé après, et il a mis par écrit ce que Pierre lui enseignait. Marc chapitre 6. Ce Jésus de Nazareth, qui est né dans le ventre de Marie, une mère porteuse, par miracle, il est déposé dans le ventre de Marie, hein, et il va être là dans une famille après où le papa Joseph va mourir plus tard, quelques années après. Il se trouve que dans la Bible, il y a des frères et des sœurs. Dans la tradition catholique, il n'y a pas de frères et sœurs, mais quand on regarde le texte en grec, c'est adelphos, ça veut dire des frères. Quand c'est des cousins, c'est pas des frères, alors c'est ek adelphos. Dans le texte en grec, c'est adelphos. Et donc ici, chapitre 6 de Marc, Jésus parti de là, se rendit dans sa patrie, d'où il venait, ses disciples le suivirent. Quand le sabbat, donc c'est le vendredi soir à 18h, fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés, disaient, d'où lui viennent ces choses? Évidemment, un manuel. Un homme qui travaille de ses mains et qui a derrière lui une famille, une veuve et plusieurs enfants moins âgés que lui, il assume. Et d'où lui viennent tout d'un coup qu'il parle comme si Dieu parlait, comme s'il avait fait plein d'études bibliques, rabbiniques. D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, Jacques donc qui sera le responsable de la première église à Jérusalem, mais Jacques est le fils de Marie et de Joseph. Jacques n'est pas né du Saint-Esprit. De José, de Jude et de Simon. C'est Adelphos, hein. C'est pas Ekadelphos, c'est-à-dire des cousins. Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Donc les gens du village, quand il revient et qu'il prêche, ne comprennent plus que ce bonhomme qui a vécu avec eux, qui a travaillé, qui a assumé la responsabilité jusqu'à 30 ans, en l'absence de Joseph qui était mort, ils ne comprennent pas qu'il parle comme ça, tout d'un coup. Et de quoi il parle ? Et Jésus dit ceci, en verset 4, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité, c'est-à-dire il en souffrait. » Bon, pratiquement, Jésus n'a pas eu le grand succès médiatique de Billy Graham, des grands prédicateurs. Il est passé à la trappe. Il était, pour les gens, il ne comptait pas beaucoup. Pourtant, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire dans cette synagogue ? On va voir après. Prenons Marc chapitre 3, verset 31. On va le voir après. Marc chapitre 3, verset 31. « Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. » Pourquoi ? Parce qu'il vient, de guérir le paralytique, il vient de lui pardonner les péchés, et puis il chasse les démons, etc. Il dit des tas de choses, il ne s'en sort plus. La maman et les frères ne comprennent plus rien, ils sont perdus. L'envoyèrent appeler, la foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Il répondit, qui est ma mère, qui sont mes frères ? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que l'appartenance familiale est dépassée par l'appartenance spirituelle. La vraie famille de Dieu, c'est une famille spirituelle. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Et donc, la vraie famille que Dieu veut sur terre, c'est ceux qui font sa volonté. Et le lien avec une famille qu'on s'appelle Chadek ou Bayeux ou Segnonev, Laurent, ça passe après. Pour Jésus, c'est comme ça qu'il le dit aux gens. Naturellement, ça ne va pas marcher tout seul. Il est choqué. Parce qu'ils tiennent à papa, à maman, au tonton, à la tata. Ils tiennent au clan. Ils tiennent à tout ce que papa et maman leur ont appris. Donc Jésus choque. Parce qu'il veut que la volonté de Dieu soit faite. Tandis qu'eux, ils ont une tradition. Ils suivent la tradition, ils ne connaissent pas Dieu. Alors il y a un choc. C'est ça que je veux dire, c'est que Jésus n'a pas eu le succès qu'on voulait, qu'on ose lui prêter parfois. Regardons dans Matthieu 13. Matthieu 13, c'est tout de même incroyable que Dieu envoie son Fils dans une situation si difficile. Rendez-vous bien compte que c'est ça que Dieu a préparé pour son Fils. Matthieu 13, verset 54. 53, Matthieu 13, 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, hein, c'est toutes les paraboles du chapitre 13, il y en a 8, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, donc du côté de Nazareth, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ce miracle. C'est le même texte de Marc. N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères ? Ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? Donc c'est une grosse famille. D'où lui viennent donc toutes ces choses ? Il était pour eux une occasion de chute. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Donc, Matthieu répète la même chose. Mais pensez bien, si vous voyez le témoignage de Paul, qui a vu le Christ et qui annonce la mort et la résurrection, il n'a pas eu de succès non plus. Et il a connu juste Pierre et Jacques, tous les autres dans la Judée. Oh oui, ils en entendaient parler, mais ils ne voulaient pas s'y frotter. Il est à Tars, il est en train d'y moisir. C'est Barnabas de Crète qui va le rechercher, qui l'amène à Antioche. Et puis 13 ans après, il va à Jérusalem. Vous vous rendez compte ? Donc l'évangile n'est pas une chose facile. La mission que Dieu a donnée aux apôtres, en plus de Jésus, n'a jamais été facile. Elle s'est heurtée aux hommes. C'est une mission impossible? Non, pas du tout. Ce n'est pas une mission impossible. Donc, il a enseigné dans la synagogue. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Luc 4. Luc 4, verset 16. Luc 4. Et alors, là, on va voir ce qui a choqué. On va voir ce qui a été dit par Jésus. Luc 4, verset 16, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, vendredi soir, 18h. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc, Dieu qui remet les dettes aux pécheurs. C'est ça l'année de grâce. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient là dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Il avait eu des miracles, etc. Et c'est un brave type. Jésus de Nazareth est un brave type. Mais pourquoi il dit ça? Il a dit des bonnes choses, mais on ne comprend pas pourquoi il l'a dit. Tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Alors, Jésus est en train de dire, juste après, que Élie a été bien accueilli à Sarepta, dans le pays de Sidon, par une païenne. Au verset 25 et 26. Par une païenne, mais qui n'avait pas été bien reçue par les Juifs. Et puis, il dit, au verset 27, que, au temps d'Élysée, c'est le général des armées syriennes, donc des ennemis, hein, qui a été guéri de la lèpre. Mais du temps d'Élysée, pas un seul juif n'a été guéri de la lèpre. Du temps d'Élysée, ni d'Élie. C'est un païen qui a été guéri, un syrien, un ennemi ancestral. Et Naaman le syrien fut guéri. Alors, à ce moment-là, ça explose. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont tous le peuple élu et que les autres sont rien du tout. C'est des petits chiens. D'ailleurs, la Syrienne, quand elle dit « Je voudrais bien être guérie, si tu me prends pour un petit chien, guéris-moi. » C'est-à-dire, elle sait que les Juifs le prennent pour un petit chien. Et Jésus va guérir pour lui montrer qu'elle n'est pas un petit chien. Et ça va choquer. Jésus va choquer. Et ça, ce qui est très important, c'est que les promesses faites à Abraham, une postérité aussi nombreuse que les grains de sable de la mer, que les étoiles du ciel, tout de suite avec Jésus, c'est opérant. La grâce est pour les hommes. Et ça, il n'est pas question de limiter le salut et la grâce du salut rien qu'au peuple juif. Pourtant, il va s'adresser d'abord aux Juifs, toute sa vie. Parce qu'ils ont eu des prophètes, ils ont des promesses. Comme dit Paul dans Romains chapitre 11, l'appel de Dieu est irrévocable sur le peuple juif. Les promesses sont éternelles pour le peuple juif. Même s'ils s'endurcissent, ils seront convertis quand toutes les armées, toutes les nations auront entendu l'évangile. C'est dans Romains 11. Donc Paul a bien compris que le peuple juif sera sauvé. Même si c'est le dernier ouvrier qui rentre dans la vigne, à 5 heures du soir, alors que le travail finit à 18 heures, à 6 heures du soir. Les derniers ouvriers qui vont rentrer, c'est le peuple juif. Mais en attendant, c'est là que les prophètes et Jésus sont nés. Alors, c'est pour dire que la méthode de Jésus est courageuse, la méthode de Jésus est douce, il n'a pas de haine contre son peuple, il s'adresse à un peuple dur, farouche, et il reste avec eux. Parce qu'il les aime. L'approche de Jésus, elle a toujours été celle-là, la compassion. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. Alors, on peut comprendre maintenant un peu mieux qui est Jésus, parce que Paul lui-même, qui était un orgueilleux, un juif avec beaucoup de connaissances bibliques, et qui pensait que la loi de Moïse, c'était ça, et point, rien d'autre. Et les chrétiens, c'était des ennemis de Moïse et de la loi, et des prophètes. Quand Jésus se révèle à Paul, Paul a compris. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Eh bien, dans 2 Corinthiens 8, 9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous et pour lui-même s'est fait pauvre, du riche qu'il était, donc il était Dieu, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Quelle est la pauvreté de Jésus ? L'humilité, l'amour. Mais il faudrait qu'en face, l'amour y vienne. Eh bien, Jésus va continuer à aimer, même jusque sur la croix, faire pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, il va dire aux brigands, aujourd'hui, tu seras dans mon paradis. La douceur et l'amour de Jésus sont les seules armes de Jésus. Pas d'épée, pas d'argent, pas de qualification religieuse, rabbinique, etc. Pas de rôle sacerdotal dans le temple. La douceur et la vérité. Il dit à notre cher Pilate, qui ne sait pas où mettre sa tête devant le problème, « Es-tu roi ?»« Oui, je suis roi d'Israël. »« Mais alors, où est ton royaume ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, car je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » La vérité de Jésus est celle qui va toucher les cœurs malgré toutes les oppositions. C'est là qu'on peut comprendre le conflit et le paradoxe de l'Évangile. La pauvreté et la vérité de Jésus vont transformer les foules, alors qu'il n'y a pas de moyens humains. Et ça, c'est extrêmement important. Pas de moyens humains. Alors, j'ai trouvé très important de le prendre dans le Cantique des Cantiques, des paroles. La Sunamite, en fait, ça représente la Sunamite dans le Cantique des Cantiques. C'est un poème d'amour hein, de plusieurs chapitres, 7-8 chapitres. Et en fait, elle représente Jérusalem et les Juifs. Et le beau prince qui est là, c'est, en fait, c'est le Christ, parce qu'il y a une description merveilleuse du Christ dans les Cantiques des Cantiques. Mais ce qui se passe, c'est que le prince dit « Je ne veux pas que vous réveilliez ma princesse avant qu'elle ne désire m'aimer. » Alors, nous allons prendre, ça veut dire que Israël, le Christ attend que Israël veuille l'aimer. Et c'est bien sûr, les derniers à l'aimer. Bon, il y a eu les apôtres, mais il y en aura 144 000. Apocalypse chapitre 7, 12 000 de chaque tribu. Donc, ils vont l'aimer. Et moi, j'ai vu ça en 2008, lorsque j'ai été voir le tombeau d'Étienne, 100 à 110 000 juifs, les quatre prêtres âgés qui vivent là, dans un petit monastère, ils m'ont dit, il y a 100 à 110 000 juifs qui viennent chercher une Bible avec le Nouveau Testament. Donc, ils s'intéressent à Jésus. Depuis 2004, 100 à 110 000 juifs. Donc, il y a des Bibles avec l'histoire de Jésus, le Nouveau Testament, dans quasiment toutes les maisons. Et nous ne le savons pas. Mais pourtant, c'est la réalité. Je l'ai vu, j'ai vu la montagne de... Sous la pentée ici, regardez, sous ce mur, mettez un smyrmorque de Bibles une sur l'autre, de toutes les langues du pays, du monde. Je n'ai jamais vu autant. Et l'argent, ce sont tous les juifs convertis de Jérusalem qui font avec leur argent, qui impriment ça et qui viennent les déposer là. Alors, oui, le peuple de Dieu commence à aimer Jésus, le Messie. C'est ça que je veux dire. Et Dieu est patient. Jusqu'aujourd'hui, il est patient. Et quand ce peuple va dire « Béni soit celui qui vient au nom de Dieu », psaume 118, « Je reviendrai ». Donc, Cantique. Les Cantiques, chapitre 2, verset 7. Ce Jésus de Nazareth, qui est si pauvre, qui semble si pauvre, qui semble si démuni pour convaincre son peuple, qui semble ne pas avoir d'atout, et qui dit « Je suis rempli de l'Esprit Saint, hein, je viens annoncer la bonne nouvelle pour délivrer les captifs qui sont en prison, pour rendre la vue aux aveugles, pour faire entendre les sourds. » Il parle à ceux qui sont en face de lui. Évidemment, il parle à ceux qui sont en face de lui. Et dans tous les villages, dans toutes les villes d'Israël. Et c'est clair, l'Esprit Saint va toucher des Juifs, puisqu'il y a eu des apôtres, et il y a eu 500 frères sur le mont Tabor pour annoncer Jésus ressuscité. Effectivement. Et pourtant, Jésus a été crucifié. Il avait apparemment tout perdu. Il avait échoué. En ressuscitant Israël, un grand nombre de chrétiens d'origine juive ont compris le petit Jésus de Nazareth, si pauvre, était finalement si riche. Il était le Fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Alors regardons comment Dieu s'y prend avec son peuple. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, donc c'est toutes les villes, les villages d'Israël, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Il ne faut pas réveiller Israël avant qu'il désire l'aimer. Et là, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de Juifs messianiques convertis. Et la montagne de Bible que j'ai vue, c'est deux reproches qu'ils ont fait pour tout le reste de leur peuple. Alors, et figurez-vous qu'il y a la même chose dans les peuples arabes, parce qu'ils sont aussi descendants d'Abraham par Ismaël. Il y a la même chose. Il y a plein de conversions chez les musulmans, malgré les persécutions. Regardons chapitre 3, verset 5. Donc, l'arme redoutable de Jésus, c'est son effacement, c'est son abaissement, c'est son humilité. Et c'est la puissance de son amour, et de sa patience, un amour-patient. Ça, c'est le vrai Jésus de Nazareth. Ni armée, ni trompette, ni casque, ni bouclier, ni grand temple, ni grande basilique, rien du tout de tout ça. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 5. C'est la même parole qui est toujours redite. Je vous en conjure, fille de Jérusalem. Tu veux l'aider ? Par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Qu'est-ce qu'il faut dans le cœur du peuple qui est en face de Jésus ? L'amour de la vérité. Et quand Jésus est là, ils ne l'ont pas. Mais Jésus est patient, il sait qu'ils auront un jour l'amour de la vérité. Donc quand nous rencontrons des gens, même ici, nous rencontrons des gens qui n'ont pas l'amour de la vérité. Nous devons être patients et prier pour eux. Nous devons persévérer. Car l'amour de la vérité peut naître là dans un désert. C'est ça l'exemple. Donc au chapitre 3, verset 5. Et puis alors, ça continue. Il y a toujours cette panne ritournelle. C'est une consigne très importante. Chapitre 7, verset 11. Voilà que la Tsunamite dit tout d'un coup. La Tsunamite dit ceci, c'est-à-dire, Tsunamite, c'est-à-dire Israël. Je suis à mon bien-aimé, ses désirs se portent vers moi. Je suis à mon bien-aimé, ses désirs se portent vers moi. Ça veut dire quoi ? L'amour entre Israël et le Christ est annoncé là. Voici mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Alors, c'est beau, hein, c'est une poésie formidable, hein, il faut lire ce livre, il faut le méditer beaucoup de fois pour bien comprendre, mais clairement c'est l'amour de Christ. Alors, est-ce que le Christ est décrit ? Eh bien, je vais vous le montrer. Cantique, les Cantiques, chapitre 5, verset 10. C'est la même description que dans l'Apocalypse et dans le livre d'Ézéchiel. Chapitre 5, verset 10. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Qu'est-ce que représente l'or pur ? C'est l'adoration pure, sans péché de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Le bien-aimé est celui qui aime Dieu sans péché. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Et oui, il n'est pas tout blanc comme nous ici. Il est plutôt entre le noir et le blanc, lui. Assez mélangé. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux. Donc, la douceur, la vie, se baignant dans le lait, la parole de Dieu, reposant au sein d'abondance, le Saint-Esprit. Ses joues sont comme un parterre d'aromates. Il sentait si bon que tout le monde était attiré vers lui. Vous vous rappelez ce que Paul dit, le parfum de Christ? Le parfum de Christ. Nous avons en nous le parfum de Christ. N'oubliez jamais ça. Un incroyant qui rencontre un vrai chrétien sent quelque chose et le voit. Je me rappelle un jour, j'étais dans la salle de culte en train de prier. Il faisait noir, j'étais couché à terre entre les bancs et les chaises. Personne ne savait que j'étais là. Et puis, il passe une de nos filles avec des gens qui étaient chez nous, elle allait montrer l'école. Et puis, et tout d'un coup, « Oh, c'est bizarre, les gens. Oh, comme ça sent bon ici. Oh, on dirait que ça sent la rose. » Et tout. Et je me suis dit, « Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Le parfum de Christ. Seigneur, tu es là. » Ça m'a beaucoup encouragé. Prier tout seul, c'est jamais perdu. Le Christ est là. Et donc, même si on est seul, Christ dégage son parfum, et même quelqu'un qui ne comprend pas va percevoir quelque chose, qui comprendra peut-être 20 ou 30 ans plus tard, ou 3 jours ou 2 heures plus tard. Ses lèvres sont d'alice, d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolite. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Son aspect comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur. Toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami. Voilà ce que la Sulamite dit. Voilà ce que Israël va dire un jour de Jésus. À toutes les nations. À toutes les nations. C'est comme ça qu'ils vont parler. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Donc, toutes les autres tribus, toutes les autres villages, localités. Alors, vous voyez bien, là, c'est une description merveilleuse de Jésus qui se retrouve dans Ézéchiel, au chapitre 2, 8 et 10, et dans Apocalypse, au chapitre 1. Alors, n'oublions pas, Jésus, dans sa gloire, est merveilleux, et pourtant, il vient humblement dans une petite famille, dans un petit village, et il va simplement aimer, apporter la vérité. Et il sera rempli du Saint-Esprit, pour le dire. Il ne sera pas dans le péché. Et cela, c'est extrêmement important, même dans le Coran. Le prophète de l'islam a dit que Jésus était rempli de la roue du Saint-Esprit. Et heureusement, les musulmans peuvent chercher Jésus grâce à ça. Alors, comment se fait-il que quelqu'un puisse aimer Jésus un jour? Comment se fait-il que Israël, comme nous, puissions aimer? Eh bien, c'est expliqué dans Romains, chapitre 5, verset 5. C'est le miracle de Dieu. C'est pour ça qu'il y a eu à la Pentecôte ce miracle, et qu'il y en a encore aujourd'hui. Le miracle de Dieu envers Jésus, c'est un miracle que Jésus fait en nous, pour Dieu, pour que nous soyons branchés sur Dieu. Romains chapitre 5, verset 5. L'espérance ne trompe pas. L'espérance, j'aime Jésus. Je veux le connaître. Je veux connaître Dieu. J'ai cette espérance. Mais qu'est-ce qui se passe? Si j'ai cette espérance et ce désir, ça ne suffit pas. La Sulamite, il faut qu'elle se réveille. Il faut qu'elle désire cet amour.
Romains
chapitre 5, verset 5. Quelqu'un a le désir, a l'espérance de connaître Dieu, il faut autre chose pour que cet amour sorte de la mort spirituelle de la personne. Pour que l'amour où Jésus sort de la mort spirituelle de la personne, il faut qu'il y ait un don de Dieu. Là, espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous attacher à Jésus. On peut avoir le désir de connaître Jésus, on peut avoir l'espérance, mais il faut recevoir ce don de Dieu, du Saint-Esprit. Alors on est réellement attaché à Jésus et on le connaît. On l'aime jusqu'au sommet. Et plus que toutes nos traditions, tous nos préjugés, tout ce qu'on a appris des autres, on l'aime. C'est ça, réveiller l'amour. Avant qu'elle le désire, nous avons le désir et puis il faut que l'amour soit réveillé. C'est Dieu qui réveille en nous l'amour. On n'est pas capable de revenir du péché d'Adam et Ève, où il y a une rupture, on n'est pas capable de revenir à Dieu par nous-mêmes. Il faut le don du Saint-Esprit. La transgression d'Adam et Ève nous ont privés de la communication avec Dieu. On peut en garder le désir. Ecclésiaste 3, verset 15. Dieu a mis dans le cœur de l'homme le désir d'éternité. On peut avoir le désir, on peut avoir l'espérance, mais il faut le don du Saint-Esprit pour être attaché à Dieu et l'aimer. Et c'est pour ça que Jésus est venu dire à Nicodème, humblement, et à d'autres, qu'il fallait le don du Saint-Esprit. On va aller dans Jean. Donc, vous voyez que Jésus ne peut pas avoir de haine sur l'homme, de mépris. Il n'a pas de jugement. Il n'a du jugement que sur le péché, sur la situation des hommes. Donc, Jean, je pense que c'est au chapitre 2. On va voir, chapitre 3, il y a un homme qui aime Dieu, qui a le désir, et il y en a sur la terre, évidemment qu'il y en a, puisque Dieu a mis le désir d'éternité dans leur cœur, puisque Dieu les a fait à son image, il reste quelque chose, il reste des bases pour aller vers Dieu. C'est ça l'espérance. Mais ce qu'il y a, il faut la nouvelle naissance. Alors, Jésus est venu pour donner cette nouvelle naissance. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Donc, tu enseignes ce qui vient de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, clairement, Nicodème a bien réfléchi. Jésus lui répondit, en vérité, donc Amin, Amin, ça veut dire, je parle au nom du Père, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Donc, on voit que l'homme religieux ne comprend pas ce qu'est la nouvelle naissance. Jésus répondit, Amin, amin, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, donc d'eau, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu, et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, donc ce qui est humain, est humain. Ce qui est né de l'esprit, est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Quand vous regardez le chapitre suivant, vous avez la brave femme, comme beaucoup d'aujourd'hui dans nos sociétés, qui a eu plusieurs hommes. Jésus n'est pas heurté, il sait qu'elle va arriver à tel endroit, il se met là. Parce qu'il ne rejette pas l'être humain, il va régler le péché de cette femme, c'est différent. Comment il va le régler? Il va lui dire, j'ai quelque chose de nouveau à t'offrir. Alors, chapitre 4, verset 10, à la Samaritaine, Jésus dit, lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais donné toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive, donc la vie éternelle. » Au verset 13, « Quiconque boit de cette eau du puits aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » La parole de Dieu. « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, Jésus est en train de lui dire qu'il faut une autre source de vie en elle. Une autre source de vie que tout ce qu'elle sait. Et alors, voilà ce qu'il dit au verset 23 et 24. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc l'esprit, la conscience, doit être touchée par la vérité. Et qui est la vérité? C'est Jésus. Ce n'est pas la religion. C'est Jésus, la personne de Jésus, qui est sans péché. Ceux qui l'adorent en esprit, c'est la conscience, l'esprit qui doit se découvrir qui est vraiment Jésus. Jésus est la vérité. Et ça, l'esprit, il est coupé de Dieu. Il ne connaît pas la vérité. Il connaît des traditions. Quand l'esprit s'ouvre à la vérité, c'est-à-dire que Jésus lui montre qui il est, vraiment, alors l'homme, par son esprit, dans son esprit, reçoit la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, pour connaître. J'ai dit tout à l'heure que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, était donnée pour aimer Dieu. Maintenant, c'est la puissance, le Saint-Esprit est donné pour connaître Dieu, pour vivre avec Dieu. Dieu est esprit, il faut, verset 24, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit en vérité. Alors, clairement, ça va être un challenge toute la vie de Jésus. Et tous les apôtres vont se gratter la tête. Il nous a dit qu'il allait mourir sur la croix, mais on ne veut pas, nous. Il fait des miracles, il multiplie le pain, il calme la tempête, il chasse les démons. Mais on ne veut pas, nous, qu'il meure. Hein ?
Il remplit nos filets.
Oui, notre frigo, quoi. Et pratiquement, on pourrait le faire roi. Il serait un bon président, il nous donnerait à manger à tous, il n'y aurait plus de chômage, il y aurait du boulot. Alors, ce qui se passe, il chasserait les Romains. Et tout d'un coup, il dit, mais je vais mourir à la croix. Et je ressusciterai. Oh là, Paul est en pétard. Ah non. Ah non.
C'est Pierre.
Pierre, oui. Hein? Ah non. Qu'est-ce que dit Pierre?
À Dieu ne plaise.
À Dieu ne plaise. Ah non, non, non. Pas question. Ah non, non, non. Tu restes avec nous.
Et Dieu a ses plans.
Et Dieu a ses plans.
C'est toi, Satan.
C'est toi, Satan, il dit. Ben oui, parce que... Refuser le sacrifice de Christ, refuser la croix de Jésus, sa mort pour nous, c'est être avec Satan. C'est dans le plan de Satan qu'on refuse la croix. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens, je ne veux savoir parmi vous que Christ crucifié. Nous devons accepter Christ crucifié, pour moi, pour nous. C'est là qu'on met en échec Satan. Quand j'avais cette brave entreprise à la maison, que ma femme a dit, c'est ta maîtresse, et que j'ai dû quitter, le bras droit, l'ingénieur, est venu une fois manger, et il a dit, j'ai quelque chose à vous demander. Si vous continuez à croire que Jésus-Christ est mort à la croix et est ressuscité, je vous quitte. Oula, on ne s'attendait jamais à ça. La grosse torpille, la grosse épreuve. Parce que c'était vraiment, ça tournait bien l'entreprise. Je dis, on ne renoncera jamais à Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Alors je vous quitte. Vous vous rendez compte, un homme de confiance avec qui je collaborais, il me sort une torpille pareille. Est-ce que ce n'était pas Satan? Ce n'est pas l'homme, mais c'est Satan qui lui faisait dire ça. Et pourquoi est-ce qu'il est revenu? Et pourquoi est-ce qu'il envoie des messages? Sans doute qu'il ne se plaît pas bien avec Satan, ça ne réussit pas avec lui. Alors, chers amis, Dieu est esprit et vérité, il peut pardonner à des gens qui l'ont refusé. Il peut pardonner et il peut changer leur cœur. La preuve, l'apôtre Paul, qui refusait tout, qui massacrait les chrétiens. Donc, même quelqu'un qui est hostile peut devenir un très bon serviteur de Dieu, un disciple de Jésus. Il n'y a pas de limite à la grâce. Paul dit... Dans le chapitre 5 de Romains, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a possibilité pour tout homme de venir à Christ, à Jésus-Christ, et de le connaître et d'être sauvé, parce que la grâce que le Christ fait est plus grande que l'horreur de nos péchés et de nos folies. La croix du Christ, la croix, son sacrifice, est plus puissant que tous les maux sur la terre. plus puissant que la guerre d'Ukraine, que M. Poutine, que le président de Chine, que toutes les inactions de Biden et des autres, que toutes les saletés, même de nos vies. La croix de Christ est plus puissante. Elle a la capacité et la possibilité de me donner le pardon, la vie éternelle, le Saint-Esprit. C'est ça que Paul a enseigné, c'est ça que tous les apôtres ont enseigné. Et ils ont été pris pour des fous, et pourtant, la foi s'est répandue. La foi s'est tellement bien répandue qu'en en quelques temps, c'est devenu considérable. Alors, je vais vous lire quelque chose qui va vous étonner. Pline le Jeune, page 92.
Pline le Jeune.
Oui, je vais vous dire.
Pline le Jeune, c'est un historien.
Je vais vous dire qui.
Entre autres.
Vous allez voir.
Il a vécu. Je ne sais pas s'il n'a même pas vécu, mais il était à distance.
Alors, il y a Pline l'Ancien et Pline le Jeune. Pline l'Ancien, c'est le tonton. Pline le Jeune, il est autre part. Pline le Jeune a mentionné ceci à propos du christianisme dans ses écrits. Voici. Pline le Jeune est un célèbre encyclopédiste qui a trouvé la mort. Pline l'Ancien, un célèbre encyclopédiste latin qui a trouvé la mort dans l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Pline le Jeune, lui, son neveu, a été gouverneur de Bithynie, donc au nord-ouest de la Turquie. Une grande partie de sa correspondance avec son ami l'empereur Trajan, donc 113, 115, avec son ami Trajan, nous est parvenu. Voici ce que Pline le Jeune écrit dans sa correspondance à Trajan. Je leur demande s'ils sont chrétiens, et quand ils l'avouent, je répète ma question deux fois, en l'accompagnant d'un sévère avertissement sur le châtiment qui les attend. S'ils persistent, je donne l'ordre de les emmener pour être exécutés. Car, quelle que soit la nature de leurs aveux, je suis convaincu que leur entêtement et leur obstination inébranlable nécessitent d'être châtiés. Ils ont aussi affirmé que leur culpabilité ou leurs erreurs ne se résumaient qu'à ceci. Ils se réunissent régulièrement, librement, à l'aube d'un jour choisi, pour psalmodier, louer à tour de rôle des hymnes en l'honneur de Christ, comme on le ferait pour un Dieu. Et ils s'engagent par serment à n'être ni voleurs, ni menteurs, ni adultères. Tout cela m'a convaincu qu'il n'en était que plus nécessaire d'arracher, par le moyen de la torture, la vérité à deux esclaves, deux femmes, qu'ils appellent entre eux diaconesses. Je n'ai rien découvert pourtant, à part cette espèce de culte dégénéré poussé à l'extravagance. Donc, je n'ai rien remarqué d'autre que leur foi. Alors, vous vous rendez compte, c'est écrit en l'an 111, voilà un homme, et il y a d'autres écrits comme ça dans l'Empire romain. C'est au début du deuxième siècle. Donc, en 80 ans, comme une traînée de poudre, l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus s'est répandu partout. Malgré les persécutions, et pas des petites, hein. Pas des petites. Parce que c'était pas des rigolos. Alors, vous vous rendez compte, j'ai pris cet exemple-là, hier j'en ai lu d'autres, hein. Ils seront sur les messages, mais allez, prenons Ignace d'Antioche, en Syrie, page 99. Ignace est un responsable d'église, Antioche, vers les années 100 à 113, 115. Hein. Bon, c'est pas marrant ce qui lui est arrivé. Ignace fut responsable de l'église d'Antioche, avec d'autres, évidemment, ce qu'on appelle évêque aujourd'hui. Il a subi le martyre sous le règne de Trajan en 117 après Jésus-Christ. Ce qui compte le plus chez Ignace, m'a-t-il dit, c'est qu'il souligne en même temps la divinité et l'humanité de Jésus. En réaction contre l'hérésie qui faisait croire que Jésus était réellement humain, n'était pas vraiment humain. Alors, voici. Ignace a mis l'accent sur les implications historiques du christianisme. Il a écrit dans une lettre à l'église de Trale. Trale, c'est une localité de Syrie, en route pour son exécution, que Jésus avait vraiment été persécuté sous Ponce Pilate, avait vraiment été crucifié, qu'il était vraiment ressuscité des morts et que ceux qui croient en lui ressusciteront aussi. Voilà la confession de Jésus tout le long de Ignace, d'Antioche, tout le long, partout où il passait, accompagné des soldats pour être exécuté, il a dit réellement, Jésus est ressuscité. Jésus est fils de Dieu. C'est un exemple parmi des milliers qui ont eu lieu à cette époque-là. Donc, ce livre-là vaut la peine d'être lu. C'est un athée qui ne voulait rien et qui s'est dit, ma femme en douce devient chrétienne et même moi, je ne suis pas d'accord. Je vais aller faire le tour d'un tas de penseurs pour lui prouver que c'est faux. Et il a fait le tour et le tour et le tour. C'est un journaliste renommé. Et pour finir, il a dû accepter la foi. Il a cru. C'est incroyable comment cet homme s'est retourné. Alors, qu'est-ce que dit cet homme après avoir longtemps été contre? Il dit ceci. Il faut se représenter Dieu à l'aube de la création avec un homme et une femme, créer son image. Ils se réveillèrent le matin en pensant à Dieu. Ils l'aimaient en vérité. Ils se réjouissaient de faire tout ce qu'il leur demandait. C'était tout leur bonheur. Ils avaient avec lui des relations justes. L'un et l'autre avaient des relations justes entre la femme et l'homme. Par suite, à l'entrée du péché, c'est-à-dire voulant connaître le mal autant que le bien, suite à leur révolte dans le monde, ces portraits vivants se prennent désormais pour le centre de l'univers. Ce n'est plus Dieu qui est leur centre. C'est leur attitude mentale qui s'est dégradée. C'est notre attitude encore aujourd'hui à nous tous. Tout ce que nous qualifions de pathologie sociale, guerre, viol, amertume, convoitise entretenue, jalousie secrète, orgueil, complexe d'infériorité, est fondamentalement lié au fait que nous n'avons pas de relation juste avec Dieu, avec pour conséquence que les gens se font du mal entre eux. Du point de vue de Dieu, c'est un abominable scandale. Alors que faire? S'il dit qu'il s'en moque, ça veut dire qu'il est indifférent au mal. Dieu, hein, s'il s'en moquait, qu'il fasse ce qu'il veut. Non. Ah non, Dieu n'est pas ainsi. C'est comme si Dieu disait, l'Holocauste, oui, je m'en fiche. Le carnage en Ukraine, oui, je m'en fiche. Non, Dieu n'a jamais pensé. Nous serions scandalisés que Dieu ne porte aucun jugement moral sur de telles affaires graves de l'humanité. S'il y a un Dieu qui porte un jugement moral sur tous ces sujets-là, il faut qu'il porte un jugement moral sur l'énorme affaire de tous ces portraits vivants de la divinité occupée à brandir leur petit poing contre lui en disant, en chantant, « Je fais ce que je veux, je ferai toujours ce que je veux. » Voici des portraits vivants de petites divinités occupées à brandir leur poing contre Dieu. Dans cette perspective-là, l'enfer n'est pas un endroit où on expédie les gens parce qu'ils étaient de braves types, et qui n'ont pas eu la chance de croire ce qu'il fallait croire, non, ils y sont expédiés avant tout pour avoir défié leur Créateur et voulu se mettre au centre de l'univers. L'enfer n'est pas rempli de repentis victimes d'un Dieu, ni assez gentils ni assez bons pour les laisser sortir. Mais il est rempli de gens qui, pour l'éternité, continuent de se vouloir mettre au centre de l'univers et qui persistent dans leur rébellion contre Dieu. Que doit faire Dieu? S'il dit que ça lui est égal, il n'est plus un Dieu digne d'admiration. Il devient un Dieu amoral, carrément dégoûtant. N'importe quelle autre attitude de sa part face à un défi aussi flagrant reviendrait pour Dieu à se diminuer lui-même. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, parce que Dieu ne s'en fiche pas. Il faut lire tout le livre. La venue de Jésus démontre la justice de Dieu. Il aime l'homme et il veut le sauver. La venue de Jésus, c'est l'homme Jésus sans péché envoyé pour arrêter les gens dans leur révolte. Voici une phrase d'un poète russe, Lermontov. Et toi qui cherches la paix, dans la révolte, alors que tu n'y trouveras que la tempête. Voilà l'humanité. Et toi qui cherches la paix dans la révolte, alors que tu n'y trouveras que la tempête. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il vient arrêter nos tempêtes et nos révoltes. Et il veut que nous naissions de nouveau et nous donner l'esprit divin auquel Adam et Ève ont dit non. Jésus vient redonner l'esprit divin. Alors, où est-ce dit dans la Bible? Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, c'est Jean-Baptiste, hein, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Un agneau, c'est Isaïe 53. L'agneau, c'est pas une girafe, c'est pas un dinosaure. Vous savez que les enfants adorent les dinosaures. Non, le petit agneau insignifiant qui va se faire massacrer sur la croix. C'est lui qui va ôter le péché du monde, qui va payer le prix. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. C'est un aoriste, en grec ça veut dire a été, est et sera avant moi. Je ne le connaissais pas, alors que c'est son cousin. Hein. Jésus a 6 mois de moins que lui. Mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Donc Jean-Baptiste le connaissait son cousin, mais il ne connaissait pas le Messie. Dans son cousin, il a fallu la révélation du Saint-Esprit pour découvrir pour Jean-Baptiste qui était le Messie, le Sauveur. C'est la même chose pour nous. Il nous faut, par le Saint-Esprit, une révélation de qui est Jésus. L'homme Jésus devient notre Sauveur quand le Saint-Esprit nous éclaire dessus. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Donc ça veut dire que l'homme humain, charnel, ne connaît pas Dieu ni Jésus. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, donc Dieu le Père, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus baptise le Saint-Esprit? Baptiser, baptizo, c'est-à-dire, quelqu'un dans l'eau, il est noyé, il est mort. Et tout d'un coup, Jésus vient le ressortir, il souffle dessus, il revit. L'homme est mort, il est noyé dans ce péché. Il ressort, il lui donne le Saint-Esprit, il revit. C'est clairement ça, c'est passer de l'état de mort spirituelle à l'état de vivant spirituel. C'est clair, c'est ça la promesse de Dieu. Alors, 1 aux Corinthiens, Paul l'a bien exprimé, et pour que tous les chrétiens d'aujourd'hui, nous, tous ceux qui cherchent la vérité, puissent le savoir, Premier aux Corinthiens, chapitre 2, au verset 9. Il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Vous voyez donc, humainement impossible de connaître la vraie personne de Christ. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc si quelqu'un aime Dieu, Dieu a déjà préparé cette rencontre avec Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous a révélés par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme? Oui, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, c'est vrai, les psychologues connaissent les choses humaines, les psychiatres aussi, mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils ne connaissent pas Dieu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, c'est-à-dire on en a fini avec ça, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quelles sont les choses que Dieu a données? Le pardon des péchés, la vie en Jésus-Christ.
Et la sainteté.
La sainteté. Nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit Saint. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors regardez bien verset 14. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde ici. Mais patience, ça va être sur Internet, et ils ne viennent pas, mais ils écoutent. Ils écoutent, et plus qu'on ne pense. Ça veut dire que malgré tout, ils se disent, mais il faudrait quand même que je me rende compte de ce qu'ils racontent. Je vais me mettre derrière la haie, comme ça il ne sait pas que je l'écoute, que je le vois. Et c'est ça, l'homme considère que tout ce qui vient de Jésus, de l'Évangile, est une folie. Et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, il faut recevoir l'Esprit Saint pour connaître les choses de Dieu, de Jésus. Donc, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit. Chers amis, si on regarde au chapitre 15, verset 46, 1 Corinthiens 15, verset 46, c'est ça qu'il faut bien se rendre compte, que Jésus dit à Nicodème, dit à la Samaritaine, dit à tous ses apôtres, vous devez naître de nouveau. Il vous faut une transformation par la puissance de Dieu, par Dieu lui-même. Vous ne devrez être jamais enfant de Dieu par vous-même, par vos œuvres, par vos mérites, par vos habitudes, par vos traditions. Il faut un don de Dieu que vous ne pouvez que recevoir de moi si vous croyez que je suis mort à la croix pour vous. 1 Corinthiens 15, 46. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Eh bien, dans certaines traductions, c'est mis ceci. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Il y en a même qui mettent animal. Ah oui, parce que vous savez, les hommes, des fois c'est plus bas que l'animal. Plus bas. C'est terrible de dire ça, parce que Dieu aime l'homme. Si Dieu veut que nous soyons transformés, c'est ça l'image du baptême dans l'Esprit Saint. Je suis englué dans mon péché, je suis noyé là-dedans. Je suis mort, je suis séparé de Dieu pour toujours. Dieu vient me chercher, me tirer, il souffle sur moi le Saint-Esprit, il donne l'Esprit Saint. Je suis devenu par grâce enfant de Dieu. C'est ça que Paul a dit, il a plu à Dieu de révéler en moi Jésus-Christ. L'Évangile, c'est le miracle de l'âme. Qui rechange l'âme complètement. L'Évangile, c'est le miracle que Dieu veut pour l'homme, pour le remettre en face de lui. Saint Irénée de Lyon, 180 après Jésus, qui est mort martyrisé. La grandeur de Dieu, c'est un homme debout devant lui, qui s'entretient avec lui. Pour le mettre debout, il faut le Saint-Esprit. Pour mettre l'homme debout, il faut le Saint-Esprit. Alors, est-ce que ce qui est le plus important dans Jésus, est-ce que c'est ce miracle, c'est chasser les démons, est-ce que c'est arrêter la tempête, multiplier le pain? Il a fait tout ça. Parce que, clairement, Jésus a dit, je fais les œuvres que mon Père m'a dit de faire. Je suis à l'œuvre avec mon Père. Mon Père est à l'œuvre avec moi. Donc, il ne fait des miracles que quand le Père le veut. Il n'en fait pas tous les jours pour épater la galerie et que tout Israël se convertisse. Il n'en fait qu'au compte-gouttes quand Dieu le veut. Mais ce qu'il y a, c'est que Dieu veut, c'est qu'il meure sur la croix qui donne le Saint-Esprit. Il faut, au moment où le peuple dit « crucifie-le, crucifie-le, libère Barabbas, Barabbas », ils aient honte de leur péché, qu'ils soient dégoûtés de leur péché, qu'ils demandent pardon à Dieu. C'est au moment où ils ont crucifié qu'ils vont avoir honte. Parce qu'ils ont tué le juste. Ils ont tué le Fils de Dieu. C'est ça que Pierre va prêcher juste après la Pentecôte. Vous avez tué le prince de la paix, le juste, celui que Dieu avait annoncé. Mais vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Vous étiez ignorants, mais aujourd'hui convertissez-vous, recevez le Saint-Esprit. Il est ressuscité, il est vivant. Et, bien sûr, 5 000 se convertissent, le lendemain 4 000. On peut compter que sur un mois, il y en avait 25 000 en Israël. Et le reste, bien sûr, n'a pas voulu se convertir. Mais c'est le pardon. La honte a été suivie du pardon. Ils ont demandé pardon pour l'iniquité qu'ils avaient faite à l'égard de Jésus. Et Dieu a donné son pardon à ceux qui avaient participé à ces cris-là, « Crucifie-le !» Même les apôtres avaient trahi. Le pardon était donné. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'œuvre de Jésus-Christ, c'est le pardon. Quand dans Matthieu 9, le ministère de Jésus commence par l'œuvre du pardon. Et c'est l'œuvre essentielle de Jésus. C'est le pardon. Pour nous, l'œuvre essentielle en moi, c'est mon pardon de mon péché. Ensuite, le don du Saint-Esprit. L'œuvre essentielle de Jésus en moi, c'est mon pardon, le pardon de mon péché. Parce qu'il est tellement vrai et juste, il me pardonne par amour, par grâce. Il a payé pour moi ma dette. Et il me donne le Saint-Esprit, il fait de moi enfant de Dieu, pour que je vive avec lui. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, son ministère commence par ceci. Dans Matthieu 9, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Ici, c'est Capernaum, hein, parce que Nazareth, c'était un petit bled. J'ai vu les maisons, le site, c'était un petit bled. Hein, c'était peut-être 10, 15 maisons, 20 maisons à cette époque-là. Et on a des preuves de ça, hein, que c'était un village qui existait. Parce que quand il y a eu la persécution de Titus, qu'il a dévasté le temple, il y avait 22 lignées de prêtres d'un village de Nob, à 9 km, qui étaient prêtres dans le temple. Le temple étant rasé, ils se sont tous dispersés. Et il y a une lignée de prêtres qui est venue s'installer à Nazareth. Et il y a des écrits chez les rabbins là-dessus. Et il y a même des preuves dans le monde juif qui ne croyaient pas en Jésus. Et donc, le village de Nazareth existait puisqu'il a accueilli une lignée de prêtres du temple qui ont dû fuir, autrement, quick. Hein. Titus a fait un carnage hein, énorme. Donc, clairement, le village de Nazareth était petit, il a bien existé, mais la ville de Capernaum, je l'ai vu, elle était assez grande. Il y avait une synagogue construite par l'argent du centurion romain. On le voit, on la voit. On voit la maison de Pierre, on voit beaucoup de choses là. Il alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, la foi des hommes qui le portent, qui le descendent dans le toit. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'Église catholique a organisé quelque chose de beau, là. C'est qu'on voit les ruines de la maison, hein, avec des murs d'un mètre 30, 1m80 de haut. Hein. On a retiré tout, on a fait des fouilles. Alors, ils ont mis des piliers en béton écartés, et puis ils ont fait une espèce de rotonde en béton, un trottoir, avec des au-dessus. Ah oui, et un escalier. On monte et puis on regarde au-dessus. On est comme avec les gars qui descendent le paralytique quoi. Dans la maison, on se représente bien le truc quoi. Ah, tu l'as vu sur Internet. Même si j'en revenais pas quoi. Alors. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Vous avez vu? Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, quelques scribes dirent en eux-mêmes, des responsables religieux, des intellectuels religieux, « Cet homme blasphème. » Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Contre lui. Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, va dans ta maison. Il se leva, s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Aux hommes au pluriel, les quatre hommes qui avaient la foi ont été récompensés. Chaque fois Jésus dit qu'il soit fait selon votre foi. Le pouvoir et la foi. La puissance d'un homme qui a la foi, c'est dans la foi que Dieu lui a donnée. La puissance de la foi. Habacuc, chapitre 2, verset 14. le juste vit par la foi. Romains, chapitre 1, verset 14 à 16, le juste vit par la foi. Galates aussi, nous vivons par la foi dans le Fils de Dieu. Et nous avons un pouvoir que nous n'imaginons pas. C'est le pouvoir que Dieu reconnaît ici, que Jésus reconnaît. Je vais vous récompenser, je vais guérir cet homme. Je vais lui pardonner ses péchés. La foi est toujours honorée par Jésus-Christ. La foi en Jésus est honorée par Jésus-Christ. Il répond. Que ce soit en Jésus-Christ, hein, la foi. Sentez sur nous. L'homme a reçu par Jésus la foi. Et la foi est une puissance de Dieu en lui, qui fait qu'il peut s'adresser à Dieu et demander quelque chose au nom de Jésus. Et regardez bien, au verset 6, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le Fils de l'homme, il y a trois passages dans le livre de Daniel, 6 siècles avant, où un homme dans la gloire, sur les nuées, apparaît à Daniel. Il vient même tout près de lui. Comme dans l'Apocalypse avec Jean, comme avec Paul sur le chemin de Damas. Et Daniel a vu le Christ. Et il l'a appelé le Fils de l'homme. Donc quand il prend ce titre, Jésus dit, c'est moi qui ai parlé, qui me suis montré à Daniel, 6 siècles avant. Comme il s'est montré à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, quand il était prisonnier. Jésus se manifeste encore aujourd'hui à des hommes. Moi, j'ai rencontré un homme, un bras droit de Kadhafi, qui avait fait l'école islamique wahhabite à La Mecque, un fanatique, qui avait le carnet de chèques et qui fondait 450 mosquées par an pour islamiser l'Afrique noire. Il donnait des sous aux noirs et il les achetait comme ça, il devenait musulman. Et un jour, pendant la nuit, le Christ lui apparut. Il est parti le lendemain, il a changé de nom, de vêtements, il est parti. Et sur son chemin, il a rencontré des gens qui connaissaient Jésus, qui lui ont enseigné la Bible. Et il est à côté de nous dans une église, avec 13 autres, qui sont 14 pasteurs ensemble là. Il y a 6000 membres, il y a 51 fondations pour drogués. Tous des drogués guéris par la foi, comme dans ce texte, par la foi, sans médicaments. Et moi j'en ai vu de ces drogués guéris. Ils n'ont pas besoin de méthadone et de psychiatres. Alors, c'est pour ça que le pouvoir de la foi existe. Mais voulons-nous cette foi telle que Jésus veut nous la donner? C'est ça. Voulons-nous cette foi que Jésus a la capacité de nous donner? Viens, suis-moi.
C'est incroyable, mais presque chaque fois, il parle du péché.
Mais le péché est une puissance qui détruit, et la foi, mais Marie-Hélène, oui. Le péché est une puissance qui détruit l'homme, on le voit bien dans l'humanité, le journal et tout, et puis tu te regardes dans la glace, tu le vois bien. Mais ce qui a la foi est l'autre puissance, c'est le don de Dieu en nous pour être attaché à Jésus, à Dieu, et tu n'es plus dans la puissance du péché. Le péché est toujours chez toi, mais il ne te séparera plus jamais de Dieu. Parce que la puissance qui est venue en toi t'a attaché à Dieu. Et la puissance qui revient à certains moments, te tourner alentour et te tenter, arrière Satan au nom de Dieu, ou au propre péché. Toutes ces pensées-là, Seigneur, je t'en demande pardon, au nom de Jésus, débarrasse-moi-en. Et Jésus le fait partir. Il en a le pouvoir. Alors, moi, j'ai vu des personnes se convertir comme ça. Je pourrais citer tout ça, ma femme va dire « tu l'as déjà raconté, donc je vais me faire », mais j'ai connu des personnes qui ont accepté Jésus et qui sont devenues toutes différentes. Un trafiquant d'armes pour Kadhafi, j'ai vu ce pasteur-là, qui était le bras droit de Kadhafi, j'ai vu un homme qui voulait jeter du pont de Remouchamp, 80 mètres ou 100 mètres de haut, 3 heures après, il rayonnait. Je lui avais dit, tu lis Jean chapitre 10. J'avais chanté, loué, je le tenais après le pont, là. Toutes les voitures passaient. Et puis, à un moment donné, je dis, écoute, j'ai deux fils à aller chercher à Liège. Hein, il avait pleuré après. Il m'avait dit, pourquoi? Mais personne ne s'arrête. J'étais là en train de le tenir avec le Seigneur. Seigneur, donne-moi de la force. Il était costaud. J'ai chanté, prié. 2 heures et demie au moins, et puis pratiquement après, voilà la Bible. Lis Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens, ou tu t'es jeté du pont, tu retournes au pont, tu te jettes, ou tu es changé. Je lui dis comme ça, tu es changé. Alors, il est changé, oui. Il était changé. Quand je suis revenu, il n'avait plus la même tête. Je l'ai revu 6 mois après, il avait encore rayonnant. J'ai toujours votre livre, vous savez, je le lis, la Bible. Hein. Alors, je voudrais, pour terminer, vous raconter une histoire, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre cette feuille-là pour vous. Voilà. Voilà, voilà. Moi, tu peux la garder. Voilà. Un berger. Non, pas du tout. Un berger dans la région de Karlsruhe, en Allemagne. C'est une région très industrielle. A constaté un jour que dans la nuit, tout son troupeau de 111 moutons a été volé. Hein? Non. Non. Et il le déclara à la police allemande qui s'est mise à la recherche des animaux. En vain. Plusieurs semaines plus tard, les forces de l'ordre apprirent qu'un grand transport de moutons était prévu à Cologne, à la gare des marchandises, vers la Turquie, au nombre de 5000 têtes. Hein? Sans doute pour une fête quick-quick, hein? Laïque hein, et tout ça, une fête religieuse. Ils informèrent donc le berger en lui proposant de venir à cette gare pour voir s'il y aurait certains de ces moutons dans le troupeau. Au jour prévu, le berger et les policiers en civil, naturellement, pour ne pas que les autres se doutent, se trônaient là sur la gare de marchandises de Cologne. Un immense troupeau de moutons passa devant eux. Le berger fit entendre par court intervalle son appel aux moutons. Et voici que l'un après l'autre se détacha du troupeau de 5000. Au moment où toutes les bêtes étaient chargées, on compta les moutons du petit troupeau qui s'était formé autour du berger. Et voici à l'étonnement de tous et des policiers, il y en avait exactement 111. Même les policiers étaient vivement impressionnés et convaincus que ces moutons étaient la propriété du berger. Cette histoire véridique est une merveilleuse illustration des paroles de Jésus. « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Jean chapitre 10, versets 14 à 15. Et au verset 4, « Il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. »
Amen.
Amen.